prestations musicales, camion-restaurant et le clou de la soirée, le spectacle pyro-musical à 22h. Programmation sur lesgrandsfeux.com. Les Grands Feux Loto-Québec, présenté par RBC, en collaboration avec la Commission de la Capitale-Nationale, Groupe Océan, le Journal de Québec et Boulevard 102.1.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme pour ces moments où vous faites la navette sans arrêt pour vos enfants, au point où vous êtes plus étourdi que dans un manège. Pour vous aider à survivre au train-train quotidien, nos véhicules vous offrent tout l'espace et la durabilité dont votre famille a besoin. Quand la vie va vite, c'est l'heure Toyota. Découvrez la famille RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Bonsoir,
c'est bien connu. Québec Rock City.
Love you, love you, love you.
On est une ville de rock. Boulevard 102, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1.
Boulevard
102.1. Votre partner de show. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bon mercredi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yann Marceau, très content de vous accompagner pour la prochaine heure. C'est le début de la saison, on a le plaisir de retrouver nos collaborateurs qu'on avait dans la dernière saison, puis vous en découvrirez des nouveaux aussi, là, avec Thomas est en train de travailler là-dessus. Vous en découvrirez des nouveaux dans les prochaines semaines. Ce soir, c'est un de mes préférés, en fait, je dis ça à tout le monde, mais c'est Jean Nadeau qui est conférencier. Salut Jean!
Salut Yannick, ça va bien?
Très content, ben oui.
Te trouves pas très grillé?
Tu me trouves pas... Mais j'ai toujours eu le teint brun un peu, mais c'est vrai que j'ai pas vu le soleil ben. J'habite à Québec, hein, à Val-Bélair, là. Puis je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'il pleut ces temps-ci. Fait que ouais, j'ai passé une partie de mon été sous la pluie.
J'étais allé faire le tour de la Gaspésie avec ma blonde. On arrivait à Percé. Là, j'étais allé voir les gens de l'endroit là-bas. Je leur ai dit, promettez-moi qu'il y en a vraiment un rocher percé, là.
OK, t'étais pas sûr.
On le voyait pas, zéro. Puis il m'a dit de quoi, le lendemain, il était là. Puis il est proche de la ville, là, tu l'as d'en face. Là,
ouais.
Tu peux pas le raser. Le premier jour, on le voyait pas du tout.
OK.
Oui, c'était brumeux, puis on dit c'est brumeux là-bas. Je sais pas si c'était un effet aussi de la fumée des feux, puis tout, en tout cas, peu importe, mais ça n'a pas été un été extraordinaire.
Puis est-ce qu'il y a moyen, je l'ai jamais vu, le rocher percé. Pourtant, je passais, puis moi aussi, c'était une journée qui était très brumeuse, puis je sais, on me dit qu'il était là, je l'ai jamais vu. J'ai passé tout au droit en moto, puis je me suis dit, je vais le regarder ses cartes postales. Mais est-ce que c'est un endroit qui est le fun, ce secteur-là?
C'est le fun, c'est relax. Là,
ouais.
Je veux dire, il n'y a pas de nightlife là, mais c'est très relax, c'est très bien. Nous, on a beaucoup aimé. Le deuxième jour, on a pu aller sur la mer pour prendre les petites croisières là, sympathiques, là.
Mm-hmm.
Mais elle n'était pas nécessairement sympathique parce que la mer était très mauvaise. C'est la seule qu'ils ont faite dans la journée. Ils ont dit, on s'essaye.
Ouais.
Là, tu passes à côté du rocher percé, tu t'en vas à l'île Bonaventure. On était supposé faire le tour de l'île. Ils ont dit, oubliez ça, on ne fait pas le tour. Écoute, c'était la croisière s'amuse, les vagues, ça revolait de partout, on était mouillé à grandeur. Mais c'est un bel endroit à visiter. Moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Ouais. Ouais. Puis, tu as passé combien de temps à faire le tour de la péninsule?
Une semaine. On est parti, on a pris un. Ben, communément appelé un Winnebago, là, mais tiens...
Winnebago!
Ouais, on est parti à Winnebago, ma blonde puis moi. Puis on l'a pris à Kakuna. Les gens qui nous louaient étaient à Kakuna. Donc, on est parti de Kakuna. On a fait tout le côté nord pour arriver, là, on est descendu jusqu'à
Carleton-sur-Mer.
Ouais. Après ça, on est revenu par les terres. 3-4 campings, c'était super.
Mais c'est une beauté. La Gaspésie est une beauté incroyable.
Ouais,
c'est un joyau qu'on a au Québec. Malheureusement, il y en a qui découvriront jamais ça, mais si vous avez la chance d'aller vous promener en moto ou encore en Winnebago, c'est des beaux voyages.
Ouais.
Tu sais, Winnebago, moi, j'avais dans ma tête que les Winnebago, c'était pour les personnes qui étaient comme en fin de vie, au même titre que les croisières. Là, un moment donné, on m'a offert une croisière. J'ai dit à la mère de mes gars, ben, c'est beau, on va y aller. Fait qu'on déplie l'argent, puis on s'en va en croisière. Puis je m'attendais à voir comme des gens gens qui étaient sur le soluté, puis tout ça. Ça a été complètement le contraire. C'était une belle croisière. On a eu du plaisir avec des gens de tous les âges. Là. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là, je me dis, OK, ben oui, je vais faire des croisières dans les prochaines années. C'est pas juste pour les gens qui sont presque morts. Puis après ça, ben la mère de mes gars a dit, hey, j'aimerais ça faire le tour du nord de l'Ontario. T'sais, il y a de beaux endroits à visiter et tout ça. J'aimerais ça aller voir la péninsule de Bruce. Je ne connaissais pas ça et on me dit que l'eau était aussi belle que dans le sud, qu'à Cuba, mettons sur une plage de Cuba. Là, ça a l'air que
quoi?
C'était super beau.
L'eau,
c'est de l'eau frette.
Non, mais c'est un des lacs, le lac.
Ouais, c'est un des lacs. Okay. Et je me dis, OK, on va aller là. Puis là, on me dit, on va loin un Winnebago. Je me dis, on va avoir de l'air vieux dans un Winnebago. Tu sais quoi? Ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. J'étais avec mes gars, j'étais avec la mère de mes gars. Puis on est allé à la péninsule de Bruce. On a pris un camping, puis on a eu du plaisir. Tu sais, des fois, on a des choses dans la tête, Jean.
Oui, tout à fait.
On se met des barrières pour rien, puis on découvre que, crif, j'ai donc bien raté du temps, moi, à me dire que les croisières, c'était pour...
Tant que t'es essayé pour.
C'était pour les vieux, c'était pour les vieux en fin de vie. Les Winnebago, c'était la même affaire. Puis je me rends compte que j'ai peut-être perdu des belles années, des beaux voyages à justement triper qu'à le Winnebago. Puis...
Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça dans une de nos entrevues de Brownie Ware. Brownie Ware, c'est une femme qui maintenant est conférencière et auteure aux États-Unis, mais qui a travaillé pendant de longues années dans des maisons comme celle Michel Sarrazin ici à Québec, là, les gens en fin de vie.
Ouais.
Elle accompagnait les gens en fin de vie. Et à un moment donné, elle s'est mise à poser la même question aux gens qu'elle accompagnait, à savoir, quel est votre, avez-vous des regrets? Et quel est votre plus grand regret dans la vie? Et elle dit, la réponse principale et de loin en avance, la plus mentionnée par les gens, c'était « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie que j'aurais moi voulu vivre puis de vivre la vie des autres. »
Wow!
Tu as le regret de ne pas avoir vécu, avoir eu le courage de vivre ta vie. Et à ça se reliait, ben j'aurais aimé ça faire ça, mais finalement, je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé ça faire ça. Il y a une autre Américaine, je l'ai dit dans une de mes conférences, Mme Brenda Schultz, qui est décédée sûrement aujourd'hui, dans les années 80. Mme Schultz, une Américaine, une petite grand-maman, elle va faire l'épicerie avec son jeune. Et quand elle revient de l'épicerie, elle stationne la voiture dans l'entrée, qui a une petite pente dans l'entrée. La dame rentre à l'intérieur pour rentrer son premier sac d'épicerie. Rendue en dedans, elle entend un cri de fou. Elle sort dehors. Le jeune était sorti de l'auto et l'auto avait reculé sur lui. Donc, il était comme coincé entre l'asphalte puis le pneu en arrière. Et Mme Schultz, qui a 77 ans, qui est grosse comme un pic, là, elle a sifflé au mois de février par grand vent, là, tu sais. Elle s'est précipitée vers la voiture. Les voisins arrivaient aussi parce que l'enfant criait. Et elle a soulevé la voiture. On se comprend, elle ne l'a pas levé au bout de ses bras comme Superman, mais suffisamment pour que le voisin qui était arrivé en premier dégage l'enfant d'en dessous.
Elle enlevait la pression.
Et là, bon, l'ambulance est arrivée, le kid était correct. Tout ça. Les journalistes voulaient rencontrer Mme Schultz pour lui parler d'événements. Puis elle a dit non, je ne donne pas d'entrevue. Elle n'a jamais voulu donner d'entrevue. À un moment donné, quelques semaines plus tard, elle se retrouve à faire son épicerie encore. Il y a un jeune étudiant de l'université dans ce coin-là, dans le Wisconsin, et il voit Mme Schultz, puis il dit, j'ai pas le choix, il faut que j'aille y poser la question. Fait qu'il s'approche d'elle, bonjour Mme Schultz, je suis étudiant en journaliste, j'aurais aimé ça vous poser une question. Elle dit, non, je vous l'ai dit, je donne pas d'entrevue. Il dit, c'est pas sur l'événement comme tel, mais c'est, ma question, c'est plus à savoir pourquoi vous avez pas voulu donner d'entrevue. Elle dit, je vais y répondre à celle-là. Parce que j'avais honte. T'avais honte de quoi? Tu viens de sauver, ben pas sauver la vie, mais au moins le sauver de blessures importantes. Et t'as soulevé une voiture suffisamment pour le dégager. T'avais honte de quoi? Ben, elle dit, j'avais honte de réaliser ce que je venais de réaliser, qui était pratiquement impensable, de l'avoir réalisé, puis de penser à toutes ces choses dans la vie que j'aurais voulu réaliser, puis que j'ai pas eu le courage de faire. Kate, il dit, écoutez-moi, je suis obligé de vous poser une deuxième question. Exemple quoi? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la vie que vous n'avez pas fait? Elle dit, moi, jeune homme, la madame a 77 ans. Elle dit, j'aurais toujours voulu être géologue. Ben, elle dit, qu'est-ce qui vous empêche de faire votre cours de géologue? Elle dit, t'as un bac de 4 ans. Ben, elle dit, justement, c'est ça. Je vais sortir de ce bac-là à 81 ans avec un titre de géologue. Ben, elle dit, madame Schultz, de toute façon, dans 4 ans, là, vous allez avoir 81 ans anyway. t'as aussi bien d'avoir réalisé de ce rêve-là. Patin, ça l'a fait.
Elle l'a fait.
Elle est sortie de... Fait que, tu sais, permettez-vous... Des fois, c'est des zones d'inconfort. Permettez-vous ça. Il y a peut-être de très belles surprises, comme toi avec la croisière et ton Winnebago.
Ben, je m'étais aperçu que je m'étais mis des affaires dans la tête, des bébites dans la tête qui n'étaient pas nécessairement vraies, mais c'est pas la première fois que j'ai des bébites dans la tête. Mais c'est pas grave, tu sais, au fil du temps, on apprend. Mais je trouve ça intéressant, ça. Est-ce que tu as l'impression, tu es un observateur de l'être humain, as-tu l'impression qu'au fur et à mesure que les générations avancent, que l'éducation est là, que l'information se transmet, qu'on juge peut-être un peu moins notre voisin que ce qu'on faisait peut-être avant sur le perron de l'église. T'as-tu l'impression que les gens vivent plus aujourd'hui que ce que nos ancêtres faisaient, mettons?
Bien, en fait, il y a un point que tu viens de mentionner, tu viens de dire un mot important, c'est à savoir si les gens jugent moins à partir de l'éducation qu'ils ont, des informations qu'ils ont, qui est plus accessible que jamais. Je ne sais pas si ça a un lien vraiment avec l'éducation puis l'information, mais je pense qu'il y a encore un mythe très important par rapport au jugement. C'est un sujet qu'on aimerait parler, aborder un peu ensemble. Les gens ont peur du jugement, les gens jugent le jugement. Tu sais, quand ils me disent « Ah, Jean, tu juges! » OK, n'es-tu pas en train de me juger que je juge? ça marche pas.
Miroir!
Et moi, je passe mon temps à dire aux gens « Vous pouvez juger. » Et vous le faites constamment. Vous le faites aux 4 ans, aux élections. Vous jugez quel est le parti qui vous convient le mieux ou quel est le politicien qui vous convient le mieux. Vous jugez quand vous rencontrez une femme, un homme, quelqu'un qui vous plaît. Vous jugez ses qualifications, ses qualificatifs, ses valeurs et tout ça pour choisir. C'est, ouais, je vais faire un petit bout avec ou avec ou pas. Si vous ne jugez pas les enseignants de vos enfants, vous ne faites pas votre job de parent. Pas juger dans le sens de toujours être négatif par rapport à, mais poser le pour et le contre, puis de prendre une décision. Et là, les vierges offensées qui nous disent « Vous ne pouvez pas juger », baptême, vous le faites, et on le fait tout le temps. Puis si vous ne le faites pas dans certaines situations, vous ne faites pas votre job, l'exemple des parents que je viens de dire. Et souvent, il y a des gens, comme dans mon industrie, là, des patoffs en développement personnel, qui nous disent, qui nous reprennent la phrase qui était dans la Bible. Hein. La Bible, là, je ne sais pas dans quel évangile, mais dans la Bible, à quelque part, c'est écrit, et je l'ai trouvé, c'est écrit « Vous ne jugerez point ». Et là, eux autres, ils arrêtent là, mes tatas, là. Mm-hmm. Mais la phrase, elle n'arrête pas là dans la Bible. Il y a une virgule. Baptiste, lis-la au complet. Vous ne jugerez point, à moins que vous soyez prêt à être jugé de la même façon. Donc, moi, je juge. Je ne juge pas l'individu. Très, très rarement, je juge l'être humain qui est devant moi. Mais je me permets de juger ses paroles par rapport à mes valeurs, ses agissements par rapport à mes valeurs. Et je me permets de l'exprimer, ce jugement-là. Parce que je suis prêt à ce qu'on fasse la même chose avec moi. Je suis conférencier, et je viens à la radio avec toi ici, je m'attends à ce que les gens qui nous écoutent jugent mon propos. Ah, c'est intéressant. Ah, là, le nado, il vient de déraper. Je m'attends à ça, je le fais moi-même.
Puis tu sais quoi, on n'est pas obligé d'être en accord, là?
Tout à fait.
T'sais, mais juste d'entendre les opinions des autres, parfois on peut changer d'idée ou se conforter dans l'opinion qu'on avait déjà au départ en disant « Bah, OK, il pense comme ça, puis maintenant je sais pourquoi il pense comme ça, mais moi je reste campé sur mon opinion. » Ça arrive, là. Moi tout j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de changer d'idée. Mais tu sais, ma question était plus, quand j'entendais ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, elle se faisait dire par le curé « Vous devriez avoir un enfant de plus, la voisine a un enfant de plus, avez-vous un religieux dans votre famille, vous n'avez pas d'enfant religieux? » c'était comme une fierté. Là, qu'un jeune garçon rentrait à l'école pour devenir curé. Puis une fois qu'il était curé, c'était comme la fierté de la famille. T'sais. Il y avait beaucoup de jugements qui empêchaient les gens, justement, de faire quelque chose de différent. T'sais. On a tous des rebelles, des rebelles en tête. Mais dans le temps, quand tu étais rebelle, c'était vraiment mal vu puis tu étais pratiquement possédé du diable. Là, heureusement, la religion est un peu, pour la plupart d'entre nous, là, est sortie de nos vies. Puis dans mon cas, moi, je suis très heureux de ça. Mais j'ai l'impression que les jeunes, même les jeunes de 20 ans, 30 ans, s'en permettent plus que ce que moi, je pouvais me permettre.
Tout à fait. Ils sont de plus en plus conscients de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas, beaucoup plus tôt que nous, on l'était, et de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de ce qu'ils veulent vivre et jouir de dans la vie. Tiens, on prend juste sur le marché de l'emploi actuellement. Tu engages des jeunes là, entre 20 et 30 ans actuellement. Là, c'est pas facile de les engager parce qu'ils veulent avoir tout parfait. En partant, ils veulent que tout soit parfait. Donc oui, ils veulent... probablement que cette génération-là va mourir moins avec cette raison principale que Bronnie Ware avait trouvée, à savoir qu'ils n'ont pas vécu la vie qu'ils voulaient vivre. Je pense que dans le contexte actuel, les jeunes vivent plus la vie qu'ils veulent vivre. Puis ça, je pense que ça découle de l'enfant roi. Parce que l'enfant, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient dans tout, depuis leur naissance. Mm-hmm. Ça a toujours été oui à tout. Fait que quand tu arrives dans le monde adulte, ben, il faudrait que ça soit oui, puis ça va être oui. Parce que si c'est pas oui, je vais aller voir ailleurs.
Je te fais rentrer un peu dans ma maison, mon ami. Y a quelqu'un dans notre entourage qui est décédé. Puis qui est décédé à un âge que les gens ne doivent pas décéder. Et ça a eu comme impact chez ma conjointe de me dire, Yann, on est dans le ici, maintenant, faudrait profiter de la vie.
Mangeons du steak pendant qu'on a des dents.
Et moi, oui, je comprends ça. Ouais. Mais, et moi, de lui dire, je comprends ce que tu dis, puis j'aimerais vivre comme ça, mais au travers de ça, il faut que je travaille, il faut que je fasse vivre ma famille.
J'ai des responsabilités.
J'ai des paiements de maison à faire. Je dois m'occuper de mes enfants, des activités la fin de semaine. Je peux pas abandonner tout ce que j'ai mis en place pour profiter de la vie parce que, exemple, je te prends une histoire fictive, un jeune de 15 ans est décédé. Hey, je suis tellement triste que ce jeune de 15 ans-là soit décédé, puis de comprendre qu'on est dans le ici, maintenant, puis il faut vivre toutes les choses parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais de l'autre côté, sur le plancher des vaches, là, dans la réalité, madame, monsieur, on doit être capable quand même de répondre aux responsabilités qu'on a en tant que père, en tant que payeur de taxes, en tant que citoyen de la Ville de Québec, en tant que Canadien. On doit continuer de faire nos affaires, mais une fois de temps en temps, on a le droit d'être belle puis de l'échapper, faire les affaires comme si c'était la dernière journée de notre vie. Puis nous
vivre avec ce sentiment d'urgence-là de profiter de la vie, puis comme je disais tantôt, de manger du steak pendant qu'on a des dents, ça ne me surprend pas, mais tu sais que tu me parles de ça à l'âge que toi et Dablonde vous avez par rapport à moi, qui, bon, j'ai 60 ans, fait que tu sais, moi, là, dans 20 ans, là, à quelque part là-dedans, ça se peut que je parte, là, tu sais.
C'est ça. Les décisions que tu vas avoir à prendre dans 20 ans, c'est quand est-ce que je vais pouvoir aller faire pépi?
Exactement, sans le faire dans ma couche, là, tu sais. Mais mettons que ça, tu sais, froidement, là, il me reste, tu sais, 20 années à peu près. Ouais. La moyenne d'âge chez les hommes, je pense que c'est 82. Fait que 20 ans, là...
Non, mais t'es en shape, là.
Je comprends, ouais. Mais je peux arriver comme ça, tu sais. Ouais. Je peux péter une crise. J'ai trois chums qui sont morts dans mes âges actuels, là, tu sais. Fait que ça peut arriver par une... Il y en a un qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il est arrivé de prendre une marche avec son chien, crise cardiaque dans le corridor de son condo, puis c'est terminé. J'ai dit, tabarnouche, chez moi, c'est mon âge, ça. Mais le questionnement que le propos de ta blonde t'a amené, ben moi, je l'ai actuellement. Tu sais, j'ai 60, j'ai de l'argent dans des rires et tout ça. J'arrête quand de travailler pour avoir une paye, pour aller profiter de la vie? Mais au rythme que je vais en profiter, j'en ai-tu assez pour profiter de ça, pour vivre ces 20 ans-là? Fait que c'est le même questionnement, mais je me dis... Si je passe mon temps à me dire ça à la 61e, 62e, 63e année de ma vie, puis qu'à quelque part là-dedans, je pète, j'ai tout manqué ça. Fait que c'est drôle parce que j'en parlais justement avec ma blonde hier. Je me disais, let's go. On part, puis on mange juste du filet mignon. On mange du steak pendant qu'on a des dents. Puis, si dans 10 ans, il n'en reste plus, il en reste moins, on mangera du steak haché, Puis s'il en reste encore moins dans un autre 5 ans, on mangera du ballonné, coudon. Mais au moins, on aura mangé du filet mignon pendant 10 ans, alors qu'on était dans la... que notre corps nous permettait encore de faire ces activités-là.
Mais c'est ça.
C'est un dilemme.
Elle était dans l'émotion, puis elle disait, on est dans le ici maintenant, mais comme si je pouvais tout abandonner du jour au lendemain pour partir tout le temps en voyage à travers la planète et découvrir des affaires. T'sais, j'aimerais ça, mais je peux pas. T'sais, ce que je lui ai proposé, puis ce que je pense que j'aurais fait avec n'importe quel des autres conjoints, c'est rendu à l'âge qu'on a, on est bien établi, on est capable d'avoir des congés, puis de profiter de la vie pendant ces congés-là. Si on peut se permettre de... Moi, je travaille 5 jours parce que j'aime travailler 5 jours, mais si vous pouvez vous permettre de travailler 4 jours avec le même nombre d'heures par semaine de travail, faites-le. Vous avez 3 jours de congé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en 3 jours.
Quand vous vivez ce 3 jours-là, commencez pas votre premier jour de 3 en vous disant « Il m'en reste juste 1,5. Il m'en reste juste 2,5. » Vivez-le. Fait, comme ta blonde dit, dans le moment présent. Regarde, moi, ma blonde est enseignante. Fait que là, elle a eu son été de congé comme tous les enseignants. Bien mérité. Je connaissais pas ce métier pantoute là. Fait qu'il est bien mérité, cet arrêt-là qu'ils ont l'été, les enseignants. Mais là, ça fait 2-3 semaines qu'elle me dit, il me semble que ça s'en vient vite, le retour en classe. Puis hier, je l'ai appelée, elle demeure à Montréal, ma blonde, on a une relation à distance. Puis je la voyais, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle tourne son écran, puis elle me montre son écran d'ordinateur. Elle commençait déjà à faire quelques petits travaux de planification pour sa future classe, pour ça. Je dis, OK, tu commences déjà à être là-dedans. Ouais, elle dit, il va falloir que je rembarque là-dedans. Mais elle, son été, elle trouve que ça a été très court. Fait qu'elle se dit, faut que je vive aujourd'hui, ce jour-ci, puis de dire aujourd'hui, je suis pas en classe. Je suis en train de profiter de ma journée, puis profite-en au maximum.
Mais tu sais,
jouissez, baptême.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, tant qu'à abandonner tout autour de toi, il y a un juste milieu aussi. Fait, ouais. On peut toujours être en ajustement. Moi, je pense qu'à tous les jours, j'essaie de m'ajuster et tout ça. Mais de voir que des émotions, des fois, peuvent... T'sais, nous rentrer dedans puis dire, ben, tu sais, comme toi, tes chums qui sont décédés, c'est voyons, c'est la même âge que moi, il fait une crise cardiaque, ça peut arrêter demain matin, là. Et moi, je vais aller faire mon voyage en Turquie, je vais aller faire mon voyage dans le sud avec ma blonde, je vais aller faire le voyage avec mes enfants et tout ça. C'est le fun sur papier, là, puis y penser, puis jaser de ça, mais dans la vie au quotidien, on peut pas.
Mais c'est la confrontation entre l'émotion et la raison, le raisonnement.
Exact.
Tu sais, le raisonnement, il est toujours là. Tu as toujours la responsabilité financière de ta maison, de ta moto, tu as la responsabilité parentale de tes enfants, jusqu'à temps qu'ils volent de leurs propres ailes. Mais cette raison-là vient être parfois shakée par une émotion subite qui arrive.
Exact.
Et là, c'est exactement ce qui est arrivé dans votre cas. Là, la personne qui est décédée beaucoup trop tôt, c'est venu mettre une émotion par-dessus la raison, mais le lendemain matin, ou le surlendemain, ou le sur-surlendemain, l'émotion est encore là. Pas l'émotion, la raison est encore là. T'as encore ton hypothèque à payer, puis t'as encore tes enfants à t'occuper. Fait que t'attends la prochaine émotion, ou tu te dis, faut que je trouve un bon équilibre, une bonne harmonie entre ce que j'ai le goût de triper avec, sans oublier mes responsabilités.
Exact.
J'ai des responsabilités.
Ouais.
Tu sais, la responsabilité parentale, c'est un de mes sujets préférés. Puis je dis tout le temps, ben, c'est pas à la blague, c'est vrai. Vous avez baissé vos culottes pour faire vos enfants. Remettez-les pour prendre la responsabilité de vos enfants. Elle partira jamais. Même quand ils vont être partis de la maison. Ma fille a 32 ans, elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte à l'attente des jumeaux. J'ai encore une responsabilité moindre que mon fils de 16 ans qui est en pleine adolescence.
C'est ça. Mais tu t'en fais encore pour eux, là?
Ah ben c'est certain.
Puis tu vas être présent pour eux le plus longtemps.
Ouais.
Mais c'est ça. Dans un couple, il y a tout le temps quelqu'un plus rêveur, plus avec plus d'émotions, puis il y a des gens qui sont un peu plus rationnels. La beauté de la chose, c'est que je pense que tout le monde est un peu capable de s'ajuster. Là. Les rêveurs peuvent aller du côté des fois irrationnel. Puis moi, je me permets de rêver une fois de temps en temps, mais bon Dieu que des fois dans un couple, là, je me trouve plate.
Ouais,
parce que je suis tout le temps quelqu'un qui ramène la balloune à la hauteur du sol. Tu sais.
Mais effectivement, si de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est dans la balloune, qui est la balloune, ben ça prend ce genre d'équilibre-là peut-être aussi. Parce que si tu vis juste dans la balloune, tu oublies ton raisonnement puis ton raisonnement de responsabilité.
Ouais.
Ben, tu passes à côté puis tu pars en voyage puis fuck les enfants puis fuck l'hypothèque.
Mais ça c'est blasant des fois, Jean-Ado. C'est blasant parce que tu vois qu'il y a un beau feu qui est allumé. OK? Puis là tu sais, tout le monde tripse autour du feu. Puis là, toi, tu arrives avec ta chaudière. Mais, hein? Non, c'est pas là.
Tout à fait. Écoute, tu parles de ton couple. Mon couple aussi, on est différents là-dessus, ma blonde puis moi. Moi, je suis le tripeux. Ma blonde, elle tripe, mais il faut que je l'amène à triper de temps en temps.
Okay.
Donc, ça crée un certain équilibre. Peut-être que les gens qui nous regarderaient de l'extérieur diraient, comment ça qu'ils sont encore ensemble, ces deux-là? Il me semble qu'ils n'ont pas la même vibe tout le temps, mais elle me ramène à une vibe qui est importante.
Exact.
À certains moments, je la ramène à une vibe qui est importante à certains autres moments. C'est ça, l'harmonie d'un couple. C'est, tu sais, j'avais déjà eu une entrevue, justement, à l'émission de radio que j'animais avant avec Yvon Dallaire, puis je lui disais, tu sais, Yvon, on a souvent entendu l'expression « les contraires s'attirent ». Il dit, c'est pas les contraires qui s'attirent, c'est... En fait, les contraires qui s'attirent, ça, c'est bon pour un one-night stand, là. Ça, là, c'est très pétoyant, là, puis ça marche au bout. Mais dans un couple, c'est de trouver le lien entre les valeurs de la personne. Les deux personnes peuvent avoir des caractères différents, par exemple, mais si, au niveau des valeurs, ils se rejoignent à plein de places, c'est pas les contraires, ça. C'est les similitudes de valeurs comme telles. Puis c'est ça qui fait la force d'un couple, même si, en apparence, exemple comme ma blonde puis moi, je te dis qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui pourraient dire qu'est-ce qu'ils font ensemble, mais c'est parce qu'on se rejoint à plein de places, au-delà de ma personnalité très flamboyante puis ma blonde qui est très plus effacée. Donc, on se rejoint dans ces valeurs-là.
Tu sais, on parlait de jugement tantôt. D'où vient la culpabilité à travers le jugement? Tu sais, les gens qui te jugent, puis là, tu te sens comme un peu coupable parce que là, tu as pris une décision que la majorité des gens ne l'auraient pas pris.
Mm-hmm.
Tu as décidé de faire le tour du monde en un an alors que, bon, tu avais des responsabilités ici. Puis là, ben, les gens te font peur. Ils te réprimandent parfois. Ouais, mais là, tu manques peut-être un peu de responsabilité. Toi, tu décides que tu t'en vas faire le tour de la planète. Puis on dirait que tu sens un sentiment de culpabilité parce qu'il y a du jugement.
Mm-hmm.
C'est de où est-ce que ça vient, ça?
Tu as donné la réponse à deux occasions dans ce que tu viens de dire là, puis c'est l'utilisation du mot culpabilité. Parce que si les gens nous disent quelque chose qui nous apparaît comme un jugement, qui peut en être un aussi, on se sent coupable.
Ouais.
Et moi, je fais, moi, tu sais, depuis qu'on se connaît, mon sujet, c'est le sens des responsabilités. Et je sais qu'il y a une différence majeure entre être responsable et être coupable. La responsabilité, ça t'appartient, mais ça peut être partagé peut-être avec d'autres personnes. La culpabilité, c'est juste toi, puis t'es sur le banc des accusés, puis tu t'en vas en prison. Dès qu'on entend un jugement ou quelque chose qui nous semble défavorable à nous, on a ce réflexe de penser que je suis en train de me faire planter, je viens de me faire mettre sur le banc des accusés et je me sens accusé, je me sens coupable. Et je pense que, bon, avec le temps où celles et ceux qui m'écoutent peut-être plus souvent que d'autres voient peut-être cette différence-là entre la culpabilité et la responsabilité, on a une responsabilité dans la majorité des événements qui nous arrivent dans notre vie. C'est à nous d'être assez grands garçons, grandes filles pour en prendre, pour prendre notre portion à nous. Peut-être le jour où la personne nous dit ce qu'elle pense, qui peut être sous forme d'un jugement ou qu'on perçoit comme un jugement, ça nous blesse. Ça me heurte, moi aussi, quand quelqu'un porte un jugement sur moi. Mais j'ai... Parce que je monte sur scène pour parler de responsabilité, j'ai peut-être acquis cette sagesse-là de prendre du recul par rapport à ça, d'être choqué pendant 10 minutes, puis à un moment donné, de dire, OK, y a-tu quelque chose là-dedans pour moi? Sans me sentir coupable, y a-tu une part de responsabilité que moi, je peux prendre là-dedans? Puis si oui, ben attends, prends-la. C'est pas la fin du monde. Prends-la, accepte-la, excuse-toi au besoin si ce que tu as dit, ce que tu as fait, a heurté l'autre personne qui t'a porté ce jugement-là. Apprends de ça, puis passe à d'autres choses, parce que la prochaine affaire sur laquelle tu vas être jugé, elle va venir assez vite.
Ouais, parlant d'observation de l'être humain, j'étais dans un souper d'amis, et j'étais avec un animateur de radio. C'est rare que c'était le chum d'une fille qui était une amie de fille, fait que bref. Mais c'est rare que je jase avec des animateurs de radio, fait que j'étais autour de la table, tu sais, puis je les écoutais jaser, puis lui, ben il y a plusieurs semaines de vacances, puis elle a vraiment pas beaucoup de vacances, je pense que c'est autour de 5 semaines, et il veut pas rester à Québec quand il est en vacances, il sac tout le temps son camp. Mm-hmm. Et là, il y a eu une réaction chez la gente féminine autour de la table, on dit, mais là, t'as peu, là, toi, tu t'en vas dans le sud, là, tu t'en vas là pendant 2 semaines, pendant que ta blonde est ici, puis elle travaille. Puis il disait, ben oui, tu sais, ça me tente pas de rester ici. Si je reste ici, je vais travailler ça à la maison, je vais me trouver des affaires à faire. Mais tandis que quand je suis là-bas, je relaxe vraiment, je suis vraiment dans ma petite affaire. Puis là, j'ai senti à ce moment-là, genre, le jugement de la part des filles en disant, mais c'est pas équitable.
Incluant sa blonde?
Sa blonde, elle disait pas un mot, fait que j'imagine qu'il avait jasé un peu avant.
C'est ça, c'est ça.
Mais j'ai senti le jugement de la part des filles en disant, en tout cas, moi, si mon chum me faisait ça, qu'il allait dans le sud pendant que moi, j'étais obligé de travailler, j'aurais été fâché. Puis sa face a changé du tout au tout. C'est comme si il se sentait coupable de quelque chose, alors que dans ma tête, à moi, écoute, t'as 8 semaines de vacances par année.
Tant mieux pour toi, mon petit loup.
Tant mieux pour toi, oui. Mais, tu sais, si tu décides d'aller 2 semaines dans le sud tout seul, puis t'es bien avec ça, puis tu fais pas de mal à personne, puis tu trompes pas personne, tu trahis pas personne, vas-y. Mais à partir du moment où il s'est senti jugé par les deux filles qui étaient à table, qui le traitaient de quasiment de selfish, là, c'est comme si parce que ta blonde souffre au Québec, toi, il faut que tu souffres aussi. J'ai trouvé ça particulier. Puis lui, c'est vraiment le jugement qui est arrivé carrément en face. C'est un coup de pelle.
Tu sais, on parle souvent de la liberté. On veut avoir notre liberté de parole, notre liberté d'action et tout ça. La plus grande source de liberté, c'est de se foutre, prendre un mot qu'on peut dire à la radio, de se foutre de l'opinion des autres. Moi, je décide, j'ai 8 semaines de vacances, ma blonde en a 5, bien, les semaines que moi j'ai tout seul, j'en parle avec ma blonde, puis si on est tous les deux à l'aise avec ça, c'est ça qui est important. C'est ce qui se passe dans mon couple qui est important. Si vous voulez juger ça, jugez-le si vous voulez, mais moi, en tout cas, là, de la discussion que j'ai eue avec ma blonde, je me mets à la place de l'animateur radio dont tu me parlais, on a convenu que c'était correct. Le reste, je m'en fous.
Ouais, et pour avoir jasé avec elle après, avec sa blonde à lui, elle se sentait comme cheap d'accepter ça. Parce que les deux autres filles à table, eux autres, n'auraient jamais accepté ça. Fait que tu sais, quand on parlait de jugement, tout ça se rejoint, là. J'avais trouvé ça, je trouvais que c'était une situation particulière parce que moi, tu sais, avec la mère de mes gars, ça a toujours été bien entendu, là. Je suis en vacances, je dégage. Mm-hmm. Si malheureusement, tu peux pas avoir des vacances, moi, je prends ma moto puis je m'en vais vers le sud puis je ne sais pas trop où je vais aller, mais je vais t'appeler à tous les jours pour me dire où est-ce que je suis rendu. Ça a tout le temps été comme dans ma tête, c'était tout à fait normal. Puis là, j'assistais à une scène où ça aurait pu être mon couple. Puis le gars se fait brasser, se fait juger par deux filles parce que sa conjointe n'a pas assez de vacances. Mm-hmm. Puis elle, après ça, qui se sent cheap parce que les deux autres filles trouvaient ça pas normal que l'autre puisse voyager. Ouais. C'est...
Mais ça revient aux individus qui composent le couple de se parler, puis ils sont bien là-dedans, ça se fait. Ils sont pas bien là-dedans, ça se fait pas.
Mais si, selon Jean Nadeau, le secret du bonheur, c'est de se foutre éperdument de l'opinion des autres, c'est quoi le processus? C'est quoi le mode d'emploi? On commence par quoi?
Tu vires les talons, puis tu t'en vas. Mais c'est pas... Tu sais, tu l'as dit tantôt, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. J'ai justement fait une publication, c'est-tu ce matin ou hier, où je disais la base de la bonne entente, c'est pas d'être d'accord sur tout, mais d'avoir un respect en tout temps un pour l'autre. C'est ça la base de l'entente. À la source de l'amour ou à la source de l'amitié, c'est d'avoir du respect pour ce que l'autre veut dire, ce que l'autre veut vivre. C'est d'avoir un respect là-dedans. Puis quand tu es en union, quand tu es dans un couple, bien, il faut que ce respect-là soit bien vécu par les deux. Sinon, bien, tu t'assois, puis t'en parles, puis tu arrives à une décision. T'es pas obligé d'accepter tout. Elle, sa blonde, n'était pas obligée, là, cet animateur radio-là, d'accepter qu'il parte pendant 2 semaines. Elle n'était pas obligée. C'est sa vie à elle.
Ouais.
Elle est dans un couple, puis tu décides de le faire ou tu décides de pas le faire. Puis il faut que tu sois bien avec la décision finale. Sinon, bien, il y a d'autres alternatives.
Des livres? Il y a certainement des livres à lire qu'on peut lire pour essayer de se foutre de l'opinion des autres. Puis de mémoire, ça va peut-être m'en revenir, mais il y en a un que je trouvais franchement intéressant que j'avais vu chez Archambault. Je l'avais acheté. Ça va m'en revenir. Mais bref.
Mais je peux t'en donner un livre, je peux t'en parler d'un livre qui est extraordinaire sur ça. C'est le titre. En fait, le titre général, c'est « Zéro nuance de gris ». Et le sous-titre, c'est « Politiquement incorrect » et c'est le livre que j'ai écrit. C'est mon quatrième, mais le plus récent.
C'est ton plus récent?
C'est mon plus récent, « Zéro nuance de gris ». J'ai décidé d'écrire 4 livres sur l'expression en utilisant, bon, il y a un petit jeu de mots avec les 50 nuances de gris, là, mais c'est « Zéro nuance de gris ». Et le deuxième tome de 4, l'autre étant à ma tête, puis il va falloir que je le sorte à un moment donné, c'est « Politiquement incorrect ». Et dans le mode de vie « Politiquement incorrect », il y a ça. Pas de devenir anarchique, pas d'être stupide dans la non-considération de l'opinion des autres. On peut apprendre de l'opinion des autres, mais de là à nous freiner et à nous arrêter par rapport à nos valeurs à nous, ça, je dis non à ça. Établis tes valeurs, vis selon ces valeurs-là, sois peut-être à l'écoute parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut t'influencer puis changer un peu ta valeur, mais de là à baser ta vie sur l'opinion des autres, que les autres vont avoir de vous, bien, vous allez arriver à la fin, comme dans la statistique de Brownie Ware, puis vous allez arriver à la fin, puis vous allez dire « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je le voulais. »
Ouais. Et ce livre-là, on peut l'acheter à quel endroit?
Lequel? Le mien?
Le tien.
Vous rentrez en contact avec moi tout simplement, je les ai maintenant. Donc, ils sont, vous pouvez les trouver sur Amazon, mais moi, j'en achète toujours un lot. Tu réachètes tes propres livres hein, à un coût dérisoire et je les revends puis je les dédicace quand je les envoie.
Puis on peut te rejoindre sur jeannadeau.net?
Exactement, jeannadeau.net où ben, je donne tout le temps, j'ai inventé un numéro de téléphone où les gens peuvent m'écrire des textos, 418-806-2729. Les gens m'écrivent à ce numéro-là et je leur réponds par texto. On prend entente sur la livraison d'un de mes 4 livres.
Ah, c'est très cool. Puis le livre, c'est l'art de s'en foutre, là, quelque chose du genre.
Politiquement incorrect. Ah, oui, l'autre?
Le livre que je t'ai parlé, Charles Chambault, je l'avais lu. Puis c'était quand même un très bon livre. Là.
C'est la traduction de... C'est un livre qui utilise le mot, je vais le dire là, parce qu'ils le disent, là, le mot « fuck » beaucoup, là, mais the art of unfucking your life », quelque chose comme ça, qui a été traduit par ce que tu viens
c'est
de dire.
C'est ça.
Là,
puis moi, j'ai une copie du tien que j'ai chez nous aussi. Fait que si les gens veulent nous rejoindre, ils sont capables de nous rejoindre. Le négatif, parce qu'on parlait le bon du processus sur l'opinion des autres, comment on fait pour arrêter de s'en faire pour l'opinion des autres. Qu'est-ce qui fait en sorte, je vais te parler du négatif, qu'est-ce qui fait en sorte que dans une pièce, il y a 99 personnes qui nous apprécient, une personne qui nous déteste, puis notre attention est constamment dirigée vers la personne qui nous déteste. Pourquoi le négatif est toujours plus intéressant pour le cerveau que le positif?
Et c'est très intéressant que tu poses cette question-là, parce que je suis probablement le seul conférencier en développement personnel qui axe son message sur le négatif au lieu du positif, parce que je crois que les gens sont beaucoup plus portés à s'éloigner du négatif ou à corriger le négatif, à corriger le mal, à s'éloigner du mal et de l'inconfort que de s'aligner sur un beau petit tableau avec des unicornes, puis des petits oiseaux, puis des pit-pits, puis de la musique de Yanni. Donc, mon approche est plus axée sur le négatif.
Avec ses beaux cheveux.
Exactement. Je pourrais te donner un exemple que je donne dans ma conférence sur le bienfait que le négatif gérer de la bonne façon peut avoir. Je reviendrai sur cet exemple-là, mais pour aller vers l'exemple que tu donnais, il y a, tu sais, quand tu es dans une salle, puis tu vois des gens, puis tu es toujours attiré par la personne qui a une allure négative, c'est la première chose que je vois, moi, quand je monte sur scène. Quand je monte sur scène, puis surtout, ben, devant 2500 personnes, tu ne peux pas le voir beaucoup, mais quand je donne une conférence devant 50 personnes, tu les as dans la face, puis tu le vois la face d'assez proche. Tu vois les pupilles se dilater occasionnellement. Et je suis toujours en mesure de déterminer, oh, lui, ça va être tough à soi. Ou elle, ça va être tough. De par son allure, de par sa mimique verbale, physique et tout ça. Et habituellement, je fais de cette personne-là la personne que je regarde le plus. C'est comme rendu un réflexe. Je commence ma conférence, je viens de spotter la personne, le gars ou la fille, parce que des fois, il y en a plus qu'un, et c'est principalement vers eux que je vais diriger mon regard pour accentuer le message. Et souvent, c'est arrivé que ces gens-là venaient me voir après, surprenamment, et me disaient, « Ouais, toi, tu m'énervais au début. Là. Ça m'énervait ton affaire, mais je vais aller y réfléchir. J'ai fait ma job. » Je te donne un exemple, la retraite à laquelle tu vas participer au mois de décembre. Là.
Retraite silencieuse.
Oui, retraite silencieuse à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Relac. En passant, il reste 4 places pour 4 femmes. Et à la dernière qu'on a faite au mois de mai dernier, on était une trentaine de personnes et on fait un petit tour très, 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 très rapide au début de la retraite où les gens disent, bon, voici mon nom, voici pourquoi je suis ici, sans rentrer dans le détail parce que c'est pas une retraite où les gens là, dévoilent tout sur eux. Mais bon, de façon générale, tout est ici, pourquoi? Et il y a un gars, un beau gars, là, une belle face là, de gars, là, viril, puis tout ça. Puis lui, je sais que c'est le mari d'une des femmes qui est dans le groupe. Ils sont pas assis ensemble. Je leur ai dit, asseyez-vous pas ensemble, ceux qui se connaissent. Et quand on arrive à lui, quel est ton nom? Puis t'es ici pourquoi? Dis-moi, je vais prendre un nom fictif. Moi, mon nom, c'est François. Puis je suis ici juste parce que ma blonde est ici, puis elle me dit que je devrais peut-être venir. Tu dis, OK, lui, ça l'est notre tough. Ça, c'est notre tough du show. Et écoute, plus la retraite avançait, à chaque atelier qu'on voyait, moi et Régis, qui anime la retraite avec moi, on se regardait et on se disait, ouais, je pense qu'on est en train de l'avoir. Il embarque dans les exercices, puis crime, il participe. Et quand on est arrivé à la fin, on n'a pas fait un tour de table à savoir qu'est-ce que tu en retiens et tout ça, mais j'ai dit, moi, je suis curieux. Toi, là, François, tu es venu, tu nous as dit ça au début, là, il y a 48 heures que tu es venu parce que ta blonde t'avait dit de venir, mais ça va pas l'air trop à t'exciter. Toi, qu'est-ce que tu dis à la fin de cette retraite-là? Si tu avais une phrase à nous dire, ça serait quoi? Et sa réponse a été, ouais, t'es obligé de vous dire que ma blonde a pas mal souvent raison, j'ai bien fait de venir. Mais c'était notre cible en partant. En tout cas, moi, je n'en ai pas parlé à Régis, mais moi, c'était le gars que quand on faisait nos ateliers, très souvent, mon regard allait sur lui parce que je le sentais négatif à réagir à. Et pour revenir à mon exemple du bienfait du négatif, et je dis souvent, je le dis dans ma conférence quand je donne cet exemple-là, ne sortez pas d'ici pour aller dire que Nadeau dit que vous devez être négatif dans votre vie. Tabarcelac, c'est même plus le fun d'être positif. Je suis un jouisseur compulsif. Moi, je suis le dieu de l'hédonisme.
Ça me fait toujours peur quand un homme me dit ça à côté de moi.
Et te regarde dans les yeux. mais tu sais, je trippe sur la vie. Fait que je suis dans le... J'ai de la merde dans ma vie, pareil comme tout le monde. Puis c'est pas parce que je mets du parfum par-dessus que ça sera plus de la merde. C'est de la merde. J'en ai pareil. Mais de façon générale, j'étais un tripeux de vie.
Ouais.
Mais les changements, certains des changements les plus positifs que j'ai faits dans ma vie, c'est en étant négatif par rapport à ce changement-là. L'exemple que je donne dans ma conférence, c'est à un moment donné... alors que je n'avais pas le corps de dieu grec que j'ai aujourd'hui, j'avais pas mal de livres à perdre. Et chez moi, quand je sortais de la douche, soit que je tournais à gauche puis je me ramassais devant mon miroir, ou je tournais à droite puis je m'en allais dans ma chambre, mon walk-in, mon linge principalement foncé, puis ma ceinture, puis j'allais là, puis je mettais ma ceinture serrée un peu plus, puis foncée. Et pendant des mois, même si j'avais dans mon porte-monnaie ma carte Nautilus, là, je tournais pas à gauche pour aller me voir dans le miroir tout nu. Je m'en allais dans ma chambre, puis je m'habillais. Puis là, je revenais me voir dans le miroir, habillé avec des teintes plus foncées, veston noir, gilet noir, une chemise noire. Puis là, je me regardais, puis pas si pire que ça. Puis j'allais faire ma journée sans aller m'entraîner, puis en mangeant encore de la junk, puis en continuant à accumuler les livres sans m'en départir. À un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau, je suis sorti de ma douche, puis je suis allé à gauche. Là, je me suis ramassé devant mon miroir. Christy, Yann, je me suis vu dans des angles. J'ai vu des portions de mon corps que je savais qu'existaient, mais que je savais pas que ça ressemblait à ça.
Vous êtes qui, vous?
Mais là, je me suis dit, attends un peu. Puis j'étais célibataire à ce moment-là. J'ai dit, wow, attends un peu, là. Il n'y a pas une fille qui va s'intéresser à ça. Peut-être, oui, quand elle va te voir habillée en noir puis la ceinture serrée, mais une fois que tout ça va être relâché, là, elle va faire un Christizo.
Ouais.
C'est pas cute. Et je me suis écœuré. Et là, c'est là que les gens décrochent souvent et disent « Ouais, mais t'es trop sévère envers toi. Arrêtez d'accepter ce qui est juste convenable pour vous si c'est pas ça que vous voulez.
Ouais. »
J'acceptais plus de me voir dans l'état que j'étais là. J'en suis venu à avoir une émotion à me regarder tout seul dans le miroir. Je suis tout seul chez nous, là. Pas personne qui me voit. Je me trouve arc. Je m'aime pas. Ça goûte pas bon ce que je vois dans le miroir. Ben, tabarcelac, je me suis habillé. J'ai recommencé à aller m'entraîner. J'ai mieux mangé puis j'ai perdu du poids.
Ouais, j'ai changé les choses.
Puis j'ai changé les choses. Pourquoi? Parce que j'ai amené le négatif à un point tel que ça a généré un changement positif dans ma vie. Donc, oui, essayez peut-être de régler ça cute, mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, permettez-vous-le.
Ouais.
Puis soyez grande personne. Tu sais, c'est pas de vous culpabiliser, c'est de vous responsabiliser dans ce cas-là à la personne que vous voulez voir dans le miroir.
Tu sais, j'ai l'impression, moi, je crois pas à la religion, je crois à rien, malheureusement, là, mais tu sais, la biologie, j'y crois, puis l'évolution de l'être humain, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en nous qui nous attire avec le négativisme, qui sert bien. C'est peut-être pour prévenir du danger. Tu sais, je sais pas, quand il était à la chasse, là, fallait tout le temps qu'il soit aux aguets. Puis dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait, il faisait attention. Tu sais, j'ai l'impression que ça a été mis dans notre corps pour ça. Puis je ne comprends pas pourquoi on est tant attiré par le négatif. Puis quelqu'un qui me parlait... Hey, toi, tu vas être capable de me dire ça parce que tu connais certainement ces gens-là. Programmation neurolinguistique.
Programmation neurolinguistique, la PNL. Ouais.
PNL. Bon, ouais. Il disait que le cerveau était beaucoup plus compréhensif envers le négatif que le positif.
Mm-hmm.
Et que si tu étais capable, dans ta tête à toi, de faire abstraction de ce négativisme-là, puis de le transformer en positif, sans nécessairement que toi, tu t'en rendes compte, il y a des choses qui vont changer dans ta tête. T'sais, moi, est-ce que je crois à ça ou pas? C'est un spécialiste, puis c'est ses affaires. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on est attiré tout le temps par le négatif, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait juste partie de notre biologie.
Ouais, écoute, j'ai rien contre la PNL comme telle. J'ai lu là-dessus. C'était le premier bouquin en développement que j'ai lu. C'était la PNL, c'était le livre d'Anthony Robbins, qui était comme la base de ça. Là. Puis depuis, ça s'est développé, puis il y a bien des gens
qui ont fait... Mais c'est basé sur quoi?
C'est basé sur les études du cerveau que les gens ont fait. Là. Mais je trouve que ce que ça a amené, ça, la PNL, puis la pleine conscience, puis la loi de l'attraction et toutes ces choses-là, ça a amené une espérance aux gens que juste en embarquant là-dedans, juste en étant dans la pleine conscience, juste en faisant des exercices de PNL ou en ayant une bonne attitude, que comme par miracle, la vie va se charger de faire en sorte que c'est positif dans leur vie.
Non.
Moi, OK, si ça fonctionne, great, allez-y. Mais moi, je suis plus sur... Ça fait mal, lève-toi le derrière pour que ça arrête de faire mal. J'ai pas de problème à toutes ces choses-là, la programmation neurolinguistique. J'ai pas de problème à la méditation, j'essaie d'en faire moi-même. J'ai pas de problème à la pleine conscience, j'essaie de l'appliquer moi aussi. Mais au lieu de penser que par miracle, parce qu'on est là-dedans, que notre vie va, l'univers va conspirer positivement pour vous, écoute, si ça arrive, là, si tu mets un chèque d'un million au plafond, puis un jour, tu t'envoies à boîte à mal, puis tu as un chèque d'un million dans ta barcelac, encaisse-le au plus sacrant, là, je le ferai moi aussi. Là. Ou si ton rêve, c'est de sortir avec une Gisèle, je ne sais pas trop qui.
Bonne
Jane. Elle, puis juste en rêvant à elle, elle va venir cogner à ta porte. Si elle vient un jour, ta barcelac saute dessus. Là. Mais j'ai plus l'impression, moi, que c'est en travaillant que tu vas avoir ton argent, c'est en la trouvant puis en la crousant que tu vas peut-être convaincre, je disais, à un moment donné, et c'est là que le négatif embarque en ligne, parce que ça fait mal, parce que c'est rendu que ça fait assez mal dans ma vie de ne pas avoir ou de ne pas faire ça ou de ne pas dire ça, mais là, je suis rendu à la limite, j'ai pas le choix, il faut que je me lève derrière puis je m'arrange pour y arriver. Mm. Tu sais, on en a déjà parlé, la fameuse phrase avec laquelle tous mes collègues conférenciers se masturbent intellectuellement, à savoir que vous méritez ce que la vie a de meilleur à offrir. Ben non, la vie est là. La vie nous a été donnée. Et avec la vie qui nous a été donnée, on a une carte de membre à vie sur un accès au buffet, qui est le buffet de la vie, qui est extraordinaire. Mais si tu vas au buffet et puis tu t'assois à ta table. Pense au buffet, l'analogie avec le buffet chinois. Tu arrives au Tang, peu importe, là, chez, comment est-ce qu'il s'appelait? Non?
Thomas Tam.
Thomas Tam, tu passes devant le buffet, tu te dis, on va bouffer ici, t'asseoir, puis tu arrives à ta table, mais tu te lèves jamais pour y aller au buffet. Ce que tu vas mériter, c'est une assiette blanche. Il n'y aura rien dans ton assiette. Fait qu'arrêtons de croire que tout nous, que la vie nous doit quelque chose, qu'on mérite ce que la vie a de meilleur à offrir. Ce qu'on mérite, c'est ce pourquoi on se lève le derrière pour aller chercher, surtout quand ça fait mal.
On change de sujet. J'ai deux, trois sujets à jaser avec toi. Il nous reste encore un peu de temps. Il y a quelque chose qui m'a marqué que Denise Bombardier a dit. Mm-hmm. Denise Bombardier, moi, quand j'étais jeune, était déjà vieille. C'était une dame qui se présentait à la télé. Tout le monde l'écoutait. Quand Denise Bombardier parlait, tout le monde arrêtait de parler puis on l'écoutait.
Je me suis déjà fait croiser par Denise Bombardier.
Elle a de là. Tu nous auras de le raconter après. Je vais mettre une note. Je vais mettre un cœur. Mais moi, je l'ai tout le temps connue comme ça. Puis à partir du moment où je suis arrivé dans les médias, je regardais un peu ce que Denise Bombardier disait. Puis c'est pas quelqu'un qui me marquait. Il y a des chroniques qui étaient bonnes, d'autres qui étaient peut-être un peu moins bonnes à mes yeux, à moi. Mais c'était une personne qui était tout le temps, dans les médias et tout ça. Puis je la trouvais intéressante. Et elle avait dit quelque chose qui m'avait flabbergasté. Il y a quelqu'un qui avait parlé, qui avait de l'air hautaine, avec un gros ego. Et elle avait dit, savez-vous quoi? L'animateur avait dit non. Si je n'avais pas eu cet ego-là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mm-hmm. J'aurais pas eu la carrière que j'ai eue depuis tant d'années.
Ouais.
Ça m'avait marqué, ça. Parce qu'elle, quand elle est arrivée, pas grand-femme qui avait fait leur place. Elle a décidé de créer sa propre place. Elle a été respectée parce qu'elle était tellement... Elle avait tellement un gros ego. Elle était tellement bourgeoise que tu te disais, attends, elle a quelque chose de spécial, cette mm-hmm. personne-là. Peut-être qu'en dedans, elle était comme toi et moi, là. Mais on dirait qu'elle utilisait son ego, elle le mettait quasiment de façon démesurée pour que les gens la respectent et qu'elle mmh. réussisse à faire sa place. Ça m'avait fessé, ça,
ouais, ouais. Il y a c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, l'ego. Et c'est un sujet que, mais encore une fois, mes patterns de l'industrie du développement personnel aiment beaucoup utiliser en disant aux gens de laisser leur ego derrière eux, de calmer leur ego, de même, des fois, tuer leur ego, mettez votre ego de côté. Ce qui est un conseil totalement absurde. L'ego est bon. L'ego tourné vers moi est bon. L'ego tourné vers les autres, comme celui de Denise Bombardier, n'est pas nécessairement bon parce que les gens pourraient qualifier ça de hautain ou de malfaisant comme un gars comme Donald Trump, par exemple, d'amener ça même jusqu'au narcissisme. Mais l'ego... C'est le travail sur soi, c'est la définition de ton soi, de ton moi, c'est la confiance, c'est le bien-être de notre nous, puis il faudrait l'éliminer, il faudrait le détruire. Non, non, cultivez-le, votre ego, le bon ego, celui qui est tourné vers vous. Ce qui devient mauvais avec l'ego, c'est quand vous prenez ce que vous avez créé comme bonne personne que vous êtes, comme performant, comme bonne personne, comme bonne valeur, puis que vous le mettez de l'avant aux yeux des autres pour vous créer une renommée ou une reconnaissance. Ça devient un ego qui est négatif. Mais l'ego de base, il est bon. Ne le tuez jamais et cultivez-le à la place. Mais quand ça devient viré vers les autres, puis que ça devient à un extrême comme étant un ego... OK, peut-être Denise Bombardier, mais prenez un gars comme Donald Trump, là, ça devient mauvais. Tu sais, nos plus grandes qualités amenées à un extrême peuvent devenir nos plus grands défauts. Donc, la confiance en soi, avoir un bon ego de notre être à nous, amené à un extrême, peut devenir de l'arrogance. Puis ça, c'est pas bon. Mais la ligne entre les deux, elle est mince. Puis il y en a qui jouent un peu là-dessus. Mais à la base, l'ego, en tout cas, c'est ma philosophie à moi. Soyez égoïste. Soyez. Je devrais écrire un livre là-dessus. Je pense que ça va peut-être être mon
ego, c'est pas égoïste.
OK, t'as raison. Je vais reprendre mon mot parce que j'ai pas pris le bon mot. Cultivez et créez votre ego et cultivez votre ego, c'est bon. Faites juste attention de comment vous allez l'utiliser vers l'extérieur. Parce que là, ça peut devenir plus bon. Vous pouvez passer d'avoir... Puis tu sais, quand elle dit si je n'avais pas eu cet ego, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, je pense qu'il aurait été préférable qu'elle l'utilise si je n'avais pas eu la confiance en moi que j'ai, que j'avais, parce que c'est une femme qui dégageait de la confiance, ben je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Et certains, peut-être, ont perçu que cette confiance-là comme, à un moment donné, de l'arrogance de sa part. C'est plus facile, peut-être, de faire ce lien-là avec Donald Trump qu'avec Denise Bombardier, mais il faut faire attention à cette ligne-là. Tu sais, il y avait Régis qu'on avait reçu, toi et moi, qui anime justement la retraite « Lève-toi et marche ». Et Régis, cette phrase qui résume l'ensemble de son approche, c'est « Votre divergence est sexy ». Bon, il y a toujours le petit jeu de mots avec Régis quand il utilise le mot « sexy » parce que c'est un ancien danseur nu. Ça rend sa petite phrase bien cute. Mais ce qu'il veut dire par là, Régis, par « Votre divergence est sexy », c'est « Déterminer votre différence à vous, déterminer votre vous, ton toi à toi ». Ça, c'est l'ego viré vers l'intérieur. Et de faire jaillir ça de la bonne façon va te donner confiance en toi, puis quand tu as confiance en toi, tu es sexy. Denise Bombardier, c'était pas la femme la plus belle au monde, mais elle dégageait quand même, elle était sexy dans le sens que, waouh, c'est une femme qui a confiance en elle.
Extrêmement intelligente, avec une prestance.
Christy, Jean-Pierre Ferland.
C'est pas le premier à avoir pigé dans le sac à face.
Non. Peter McLeod, j'ai déjà eu l'occasion à un moment donné de prendre une bière à Peter McLeod, puis on parlait de différentes choses. Puis il me disait, justement, par rapport à Jean-Pierre Ferland, il est laid comme un trou de cul d'autruche. Mais attends un peu, là, il est quand même sexy. Le nombre de femmes qui ont été après ce gars-là, mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il dégageait une confiance en lui, malgré le fait que c'était pas le plus beau de la gang, qu'il est encore pas le plus beau de la gang. Donc, il faut démêler toutes ces affaires-là. L'ego vers soi qui est bon, qui crée cette confiance en nous-là, qui nous permet d'être une meilleure version de nous-mêmes, même si j'ai dit cette phrase-là, là, versus celle qui est dégagée vers les autres. Faut être prudent par rapport à ce qu'on dégage par rapport à ça. Et ça, c'est le mauvais ego qui peut devenir même du... comment on appelle ça? Je l'ai dit tantôt avec narcissisme, avec un gars comme Trump.
Ouais, mais j'ai envie ces gens-là qui sont capables de bien cultiver leur ego pour avoir un bon ego. Je pense que j'ai un ego qui est quand même assez bien mesuré, là. J'aimerais avoir un plus gros ego des fois parce que j'ai l'impression que ce plus gros ego-là pourrait m'ouvrir plus de portes. Parce que dans le métier où je suis, avoir un ego, ça a l'air que c'est important. Puis je l'ai compris dans les dernières années parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des animateurs, des animatrices de radio qui se voyaient d'une façon et qui étaient capables de vendre leur personnalité à leurs employeurs mm-hmm. pour avoir des avantages qui, normalement, avec où est-ce qu'ils en étaient rendus dans leur carrière, ben ils n'auraient pas eu à avoir ces avantages-là. Puis moi, ben je considère que pour chaque millimètre que j'ai avancé dans ma carrière, il a fallu que je me batte. Ouais. Dormi dans mon char, j'ai fait des nuits comme pas possible de travail à la radio. Je me levais à 2h du matin pour aller faire les shows du matin pour aller remplacer tout le monde. Puis j'étais pas capable de trouver ce petit ego-là en moi qui allait me permettre d'essayer de me vendre peut-être mieux aux yeux de mes patrons. Puis il y en a qui réussissaient à se vendre facilement. Puis moi, ben on dirait que je prenais même pas la peine de rentrer dans le bureau.
Je sais pas si c'est tant l'ego dans l'exemple que tu viens de donner là que la distinction. Pourquoi André Arthur, ça a marché parce que c'était le premier à gueuler à la radio?
Oui, mais il y avait tout un ego là.
Ah, tout à fait. Okay. Oui, tout à fait. Puis lui, il pouvait passer de la confiance en lui à l'arrogance.
Ouais.
Mais c'était principalement du spectacle.
Oui,
pareil comme le Doc Mailloux. Mailloux, c'est la même affaire. Ouais. C'est du spectacle. Ça génère... Ils ont créé une distinction en ondes. Quand le micro est fermé, ils ne sont peut-être pas nécessairement exactement les mêmes personnes.
Ça dépend. T'sais, moi, j'ai travaillé avec André. Ça a été une belle expérience parce qu'il se souvenait de moi quand je l'appelais quand j'étais jeune. Puis il a tout le temps eu... On a tout le temps eu une relation en tout respect. Il y a d'autres collègues qui l'ont eu peut-être un peu trop dur. Mm-hmm. Un peu trop dur. Mais Arthur avait quelque chose en lui qui je sais pas. C'était un être humain extrêmement intelligent.
Exact, c'est la réponse. Tu l'as, c'est ça.
Il était capable de détecter rapidement les gens qui faisaient ce métier-là pour les bonnes raisons et les gens qui faisaient ce métier-là pour peut-être s'auto-promouvoir constamment. Il était capable de détecter rapidement si tu avais travaillé ou si tu n'avais pas travaillé. Mm-hmm. Moi, j'ai eu une belle relation avec lui, mais ce qui me marquait, c'est effectivement ce que tu as dit, c'est qu'il y avait un André Arthur en onde qui était une bête et le monsieur Arthur qui était hyper poli, mm-hmm. très doux, délicat avec ses collègues de travail une fois que le micro se fermait.
J'entendais le Doc Mailloux qui était en entrevue cette semaine, je ne me souviens pas à quelle émission, et il disait ça, il dit, moi, quand le micro ferme, là, je m'en vais m'occuper de mes chevaux, je suis seul là, dans mon enclos avec mes chevaux, puis je suis le gars le plus zen que je ne pouvais pas connaître, là. Mais il a compris. Jeff Fillion, c'est la même affaire. Jeff, il a voulu prendre la relève d'André Arthur, puis bon, il ne l'a pas toujours fait de façon habile, là, mais c'est, donc c'est peut-être plus ça de trouver... La distinction, qu'est-ce qui va faire en sorte que, tu sais, je nommerai pas d'autres animateurs qui sont en onde actuellement, mais il y en a qui, il y en a un, entre autres, qui a des bonnes cotes d'écoute, puis qui est un morning man, puis il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que de raconter des anecdotes, mais il est merveilleux à raconter des anecdotes. Il en a fait sa spécialité. T'écoutes son émission, pas parce que c'est un génie, là, pas parce que c'est un intelligent comme Arthur l'était, c'est juste parce qu'il raconte sa face. On dirait qu'il y a... À un moment donné, à 365 jours par année, tu dois plus en avoir d'anecdotes.
Ben, des fois, t'en inventes.
Peut-être que ça arrive qu'il en invente, mais même ceux inventés, ils racontent bien.
Ben oui, c'est son talent, puis on le salue s'il est à l'antenne. Bon, t'as parlé de ta fameuse retraite Lève-toi et marche. Tu nous as dit que, bon, il reste 4 places, ouais. Des places pour les femmes. Les places pour les hommes ont toutes été comblées.
Oui, les places pour les hommes ont toutes été comblées. On a un étage complet juste pour les femmes, et il nous reste 4 places.
OK, et c'est quoi cette fameuse retraite-là qui s'appelle Lève-toi et marche?
C'est une retraite qui est animée par moi et mon collègue conférencier Régis Lachance, deux personnes complètement différentes, mais qui se rejoignent sur bien des choses. C'est une retraite qui inclut 2 expériences principales. Donc, vous allez à cette retraite-là pour vivre une double expérience. La première, c'est de vous retrouver pendant 48 heures dans une abbaye où il y a des moines et où la règle numéro 1, c'est le silence. Tout le temps. Tout le temps. Tu vas dîner, tu as les gens faire de toi, silence. Tu es tout le temps dans le silence, sauf peut-être dans l'autre portion de l'expérience de la retraite, qui est d'assister aux 9 ateliers qu'on a. On a 9 ateliers qui commencent le vendredi midi, vendredi après-midi, et qui se terminent le dimanche midi. Donc ça, c'est la 2e expérience. Donc dans ces ateliers-là, il arrive où il y a des exercices où les gens vont parler. Mais quand ils sortent de l'atelier, avec le petit devoir qu'on leur donne à la fin de chaque atelier, tu vas le vivre toi-même parce que tu viens avec nous le 1er, 2 et 3 décembre.
Ça me terrorise.
Tant mieux.
Je me suis inscrit parce que je me suis lancé ça comme...
Qu'est-ce qui te terrorise? Le silence?
C'est le silence, c'est de me lancer...
Le pas d'iPhone?
C'est le... Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est de me lancer dans quelque chose dont je n'ai aucun contrôle.
Ouais. Et pourtant, il faut que je t'arrête, et pourtant, dont tu auras le plein contrôle.
Ouais,
c'est hot ce que
mais
je
te dis. Mais c'est
l'inconnu. Toi, tu t'en vas vers quelque chose pour lequel tu penses à aucun contrôle, puis tu vas te rendre compte sur place que... T'as le plein contrôle de ces 48 heures-là, puis après ça, tu décideras ce que t'en fais.
Mais mes voyages, hein, en moto, là, j'ai mon steering, j'ai mon gaz, je le sais où je vais. Quand j'ai pris mes cours de pilotage pour les avions, j'ai mon manche à air.
Oui.
Je suis capable de, avec mes palonniers, je suis capable de me diriger dans le ciel.
Ouais.
Là, je m'en vais avec vous autres dans une retraite. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça s'appelle Lève-toi et marche. Ça va être à la baie de Saint-Benoît-du-Lac. C'est en décembre.
Mais tu auras quelque chose.
Pas dans quoi je m'embarque. Je suis terrorisé.
Tu n'auras pas de guidon, tu n'auras pas de manche à balai. Mais tu vas avoir ta tête, puis c'est là-dedans que ça va se passer. C'est une retraite de développement personnel. Et on a voulu, dans la constitution de ces 9 ateliers-là, on le savait théoriquement avant qu'on la présente, la toute première édition, on savait qu'il y avait un pic le samedi soir. Ma blonde a assisté pour la première fois à celle qu'on a faite au mois de mai dernier. Et on a triché parce que j'avais mon iPhone, je savais qu'elle avait le sien, et je savais qu'elle avait eu, elle aussi, l'impact de cet atelier-là, qui est celui du samedi soir, qui débute d'une façon où les gens se disent « Mais ils ont pensé à ça, comment débuter cet atelier-là de cette façon-là? » Quand on a débuté l'atelier, puis ils nous ont amené quelque part, on se disait « What the hell? Qu'est-ce que c'est ça, cet atelier-là? » Puis après ça, ils reviennent devant moi parce que c'est moi qui l'anime. Puis après ça, il faut qu'ils aillent faire leur devoir. Et le devoir qu'on donne le samedi soir, ma blonde a dit « Jean, on se parlera pas bien ben longtemps. » Parce que, un, vous m'avez donné un devoir. Ça me fait chier d'avoir à travailler si fort. Je suis dans les câbles. Je ne sais pas comment la pogner. Je ne sais pas par où commencer. Puis, je me dois de faire mon devoir. Fait que, ciao, bonne nuit. Puis, on se voit demain matin à 4 heures parce que le dimanche matin, notre activité mystère qu'on appelle est à 4 heures du matin. Puis là, allez pas. Premièrement, la retraite n'a rien, absolument rien de religieux. C'est pas une secte. Régis et moi, on est loin de ça. Et, tu sais, de faire lever les gens à 4 heures du matin pour une activité qui se tient encore une fois à une place où vous allez dire, Mais comment ils ont pensé à ça? Il n'y a rien de sectique là-dedans, mais ça, c'est à partir de cet atelier-là, à 4h du matin le dimanche, où tout ce qui a été discuté dans les premiers ateliers commence à prendre forme pour arriver vers la fin sur l'heure du midi. Donc, oui, les gens s'embarquent dans cette retraite-là avec beaucoup de questionnements, parce que le questionnement principal, il est envers vous-même. Mm-hmm. Quand est-ce que tu t'es arrêté à penser à toi-même?
Jamais.
Quand tu pars tout seul, tu penses à la route, je vais passer par où, je m'en vais où, je tourne-tu à gauche, je tourne-tu pas à droite, parce que tu n'as pas toujours un plan de route, puis tu as le guidon, puis tu as la vitesse, puis il faut que tu fasses attention. Oh, faudrait bien que je dîne bientôt. Là-bas, là, c'est... T'es tout seul avec toi-même.
Fait que j'ai bien hâte de vivre ça. C'était mon objectif cette année. Je me suis payé ça, une belle retraite. Puis on aura l'occasion d'en reparler sur les zones de boulevard. JeanNadeau.net pour plus de détails, pour les renseignements. Puis ton livre que tu me parlais,
les renseignements, principalement, c'est le numéro qui est là, le numéro que je t'ai donné tout à l'heure, 418-806-2729. Pour avoir plus d'informations,
oui,
je vous les donnerai. Puis après ça, si vous décidez de vous inscrire, ben, il reste juste 4 places pour mesdames.
C'est ça. Puis pour ton livre, Les nuances de gris, c'est JeanNadeau.net. Toujours exact. Un plaisir de t'avoir avec nous autres. Puis ben, merci beaucoup de faire partie de l'équipe de collaborateurs. T'es très intéressant. Les gens t'apprécient.
Merci, puis,
ben, je t'apprécie aussi.
Merci, mon ami.
Salut.
À bientôt.
Bye.
Marceau, le soir. Le soir. Bûcherons et bûcheronnes, préparez-vous pour le Festival du bûcheux du 23 au 27 août à Saint-Pamphile en Chaudière-Appalaches. Ciotte, Godendard, hache, scie mécanique et chargeuse. Plus d'une quinzaine de compétitions forestières vous y attendent sur le site des compétitions Boulevard. Assistez aux prestations des deux frères, Phil Lauzon, Paul Darèche, Québec Redneck Bluegrass Project, Alter Ego, ainsi qu'un hommage à ACDC et Bob Bissonnette. Programmation festivaldubucheux.ca. Freine pas ton élan avec le Festival du Bûcheux et Boulevard 102.1.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 40 millions. Ouais, ça brasse dans le boulier.
Les inscriptions du Collège Barthes et du CRTQ, c'est maintenant. Viens étudier au centre-ville avec des enseignants spécialisés dans leur domaine. Technique juridique, marketing des médias sociaux et animation radiophonique et web. Les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca et sur crtq.ca.
Des belles sensations, on veut pas juste en vivre en vacances, on veut en vivre à tous les jours. Et avec un Rogue de Pocket Nissan, Saint-Nicolas-Nissan et Montmagny-Nissan, vous serez comblés. Loué sur 24 mois, le Rogue SV Attraction intégrale à seulement 470 $ par mois avec léger comptant. Ah, l'odeur de ton Rogue flambant neuf, ça, c'est une belle sensation. Puis pas de gros engagements, c'est juste pour 2 ans. Également, livraison imminente de plusieurs modèles, dont l'Aria électrique. C'est mission sensation chez Pocket Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan.
Cet été, Yuzu vous réserve des rabais excitants. 15% sur tous nos plateaux sélectionnés. C'est absolument tout ce qu'il vous faut pour ajouter la touche de fraîcheur à vos pique-niques entre amis. Yuzu Sushi, fier partenaire de l'été de tous vos plaisirs. Visitez le yuzu.ca pour tous les détails.
Vivez la nostalgie des camps d'été avec le spectacle de cirque gratuit Vacances de Flip Fabric. Les 21 et 22 août, voyez Vacances au Parc Saint-Benoît de Sainte-Foy. Détails et expériences famille bonifiées sur flipfabric.com.
L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que ça rime avec efficacité. Visitez votre espace client au hydroquebec.com ou à partir de l'appli mobile.
Maman, papa, je vous suggère humblement d'économiser de l'argent et de magasiner sur Amazon pour la rentrée. C'est ma croissance. Je grandis à une vitesse alarmante. Et les vêtements que vous allez m'acheter cette année vont être bientôt trop petits. En plus, ce que j'aime aujourd'hui va être démodé demain. Mais au moins, votre portefeuille ne sera pas victime de mon sens de la mode. Si vous achetez à bas prix pour la rentrée sur Amazon... J'espère que ça va vous aider. Amazon, dépensez moins, souriez plus.
Du 17 au 20 août, le Festibière de Québec te fera goûter l'été au quai de l'espace 400e avec plus de 100 exposants. Profite des combos verres et jetons en pré-vente jusqu'à dimanche dans les IGA participants et sur festibièredequébec.com.
Une invitation Desjardins, Caisse de Québec et Ville de Québec.
Le cinéma, les jeux vidéo ou la publicité te passionnent? Voici ta chance d'en faire carrière. Le Collège Barthes offre plusieurs programmes. Animation 3D, effets visuels, programmation en jeux vidéo, techniques cinématographiques et télévisuelles et graphisme et motion design. Les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi en ce mercredi soir. Ça a été encore une fois un plaisir. On est en compagnie du conférencier Jean Nadeau. Vous voulez le rejoindre, vous voulez en savoir plus sur lui, sur ses livres, sur ses conférences, sur sa fameuse retraite qu'il nous parlait tout à l'heure, c'est jeannadeau.net. Actuellement sur Québec, ben c'est des nuages, minimum de 12 degrés. Demain jeudi, alternance de soleil et de nuages en matinée. Ça devrait se gâcher par la suite. Là, on parle même d'orage en après-midi et en soirée, maximum de 24 degrés. Pour ce qui est de vendredi, des averses maximum de 22. Samedi, on devrait voir certaines éclaircies là, pendant la journée, maximum de 22. Et dimanche, ben là, on nous parle d'averses avec un maximum de 23. Je vous laisse là-dessus. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Puis on se rejase demain, jeudi, pour ce qui est de Marceau le midi à 11h30. Salut! Bye-bye!
Marceau le soir. Le soir.
Jusqu'au 13 août, Boulevard 102.1 vous donne rendez-vous à l'espace 400e dans le cadre de la 41e édition de Plein Air. Deux semaines festives qui vous permettront de rencontrer des artisans des quatre coins du Québec en plus de découvrir leurs inspirations et créations. Des milliers d'objets d'exception porteurs d'histoire seront en vente sur place. C'est une grande expérience de magasinage dans un environnement unique qui vous attend. Pâques, Plein Air, dénicher des œuvres uniques, reconnues, métiers d'art et éco-responsables.
Les restaurants à tartare Couteau proposent 10 nouvelles recettes raffiné et le mercredi à volonté. Couteau Neuchâtel, Beauport et maintenant sur Saint-Joseph. Les plus grosses portions de tartare en ville.
Salut, c'est Dominique, porte-parole d'Élégance VR. Pour un motorisé de classe A, B ou C, neuf ou usagé, la référence au Québec, c'est Élégance VR. En plus, avec leur offre exclusive 555, vous êtes assuré de partir la tête tranquille. 555, c'est 5 ans de garantie complète sur votre VR, 5 ans de service d'ouverture et 5 ans de service de fermeture. Tout ça sans frais à l'achat d'un VR. Venez les rencontrer et visiter leurs nombreux modèles sur place.
Étanchez votre soif d'été dès maintenant chez McDo. Savourez un café glacé ou un Coca-Cola petit format bien rafraîchissant à seulement 1$ plus taxes. Faites vite! L'événement soif d'été se termine le 3 septembre. Dans les restaurants du Canada participants, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Étudier à Fierbourg, leader en formation professionnelle, c'est se qualifier pour devenir un employé de choix et s'ouvrir des portes. C'est aussi s'offrir une formation reconnue dans un milieu d'apprentissage stimulant, comme si vous étiez déjà sur le marché du travail. Nos formations sont axées sur la réussite, le développement et le perfectionnement. 17 formations, 4 secteurs d'activité. Administration, commerce et informatique, alimentation et tourisme, santé et horticulture. À Fierbourg, augmente ta valeur. Inscription en cours à fierbourg.com.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone, 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 102.1.
Offrez-vous une bonne dose d'adrénaline avec le parcours aérien d'Arbraska du Chesnay. Tout près de Québec, le parcours de 85 jeux dans les arbres offre une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph et se termine avec une tyrolienne de plus de 300 mètres. Réservé sur arbraskaduchesnay.com.
Allô, moi c'est Ben, porte-parole officiel de Mobile Clinique. Ouais, honnêtement, j'ai jamais mis les pieds chez Mobile Clinique. Mais un certain Joe Patate 508 m'a vendu un sel le mois passé. Tout allait bien, jusqu'à temps que Jessica se pointe.
Pardonne-moi mon sel, mon
Ouais, je tenais patate. J'aurais dû opter pour un téléphone remis en marché certifié de Mobile Clinique, inspecté et sans risque de pétage de coche. Choisissez intelligemment. Visitez l'une de nos boutiques ou mobileclinique.ca.
Des belles sensations, on veut pas juste en vivre en vacances, on veut en vivre à tous les jours. Et avec un Rogue de Pocket Nissan, Saint-Nicolas-Nissan et Montmagny-Nissan, vous serez comblés. Loué sur 24 mois, le Rogue SV à traction intégrale à seulement 470 $ par mois avec léger comptant. Ah, l'odeur de ton Rogue flambant neuf, ça, c'est une belle sensation. Puis pas de gros engagements, c'est juste pour 2 ans. Également, livraison imminente de plusieurs modèles, dont l'Ariya électrique. C'est mission sensation chez Pocket Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan.
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
L'ADN du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
Il n'y a rien de mieux que
102-1 et son équipe de fous. 102-1. Parce que
vous êtes la meilleure radio au monde!
Boulevard 102-1. Bienvenue chez vous. C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Ça, c'est du rock.
Excellent mercredi 9 août. Il est 19h et Max Larouche s'installe à Boulevard 102.1. C'est le volume au max. C'est quoi le volume au max? C'est le meilleur de la musique pour bien, j'allais dire, conclure la soirée. Bon, dans mon cas, c'est peut-être vrai avec l'heure à laquelle je me couche pour être avec vous dès 6h dans Rage Against le matin. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est fort probablement plus un début de soirée ou dans le pire des cas, un milieu de soirée qu'une fin de soirée. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que j'ai une grosse heure de grosse musique à vous offrir et on va partir ça tout de suite, pourquoi pas. Les Black Keys seront là en séquence rock, bien accompagnés de Jet. Måneskin sera là aussi avec Begin. Les Foo Fighters s'en viennent. Hole également. Et tout de suite, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, celle-là. Orgy avec Blue Monday Single Mix. Bon mercredi soir, vous êtes à Boulevard 102.1.